إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous en sommes aujourd'hui à la 12e leçon du livre intitulé « Leçons importantes pour toute la communauté » écrit par l'imam Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Dans cette leçon, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a exposé les conditions des ablutions. Donc les ablutions, comme vous le savez, désignent le fait de se laver certains membres du corps afin de se purifier. Et cela consiste à laver avec de l'eau pure des membres précis du corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans son livre, comme nous le verrons dans la prochaine leçon, incha'Allah ta'ala, sur les piliers des ablutions. Mais aujourd'hui, nous allons parler des conditions des ablutions. On a vu lors de la leçon sur les conditions de la prière que les conditions, c'est ce sans quoi la chose pour laquelle elles sont exigées, elle ne peut être valide. C'est-à-dire que si les conditions ne sont pas remplies, ne sont pas présentes, alors, en l'occurrence ici, les ablutions ne peuvent pas être valides. Il est donc impératif de remplir ces conditions que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a citées. Il a dit, rahimahullah, les conditions des ablutions sont au nombre de 10. Puis il a mentionné les trois premières en disant l'islam, la raison, le discernement. On a vu lors du cours sur les conditions de la prière, lors de la leçon 6, l'explication au sujet de ces trois conditions. On a vu qu'il est impératif que la personne soit musulmane pour que ses œuvres soient acceptées. Et ce car le mécréant, l'ensemble de ses œuvres sont rejetées. Et ce car l'islam, c'est la base fondamentale permettant à la personne de voir ses œuvres acceptées. Ensuite, il a dit la raison, et on a vu que ceci est également une condition, car les œuvres de celui qui a perdu la raison, celui qui est fou, elles ne peuvent pas être valides, et que la plume est levée sur lui. Comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plume est levée pour trois, et il mentionna parmi eux le fou, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Et le discernement, on a vu que cela désigne l'âge à partir duquel l'enfant commence à discerner entre le bien et le mal, entre ce qui lui est profitable et ce qui lui est nuisible. Il comprend ce qu'on lui dit, il arrive à accomplir des actes avec une intention et ainsi de suite. Et généralement cet âge est atteint à partir de 7 ans. Et on a vu que c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint aux parents d'ordonner à leurs enfants la prière dès l'âge de 7 ans. Donc lorsque ton enfant a 7 ans, il t'incombe de lui ordonner la prière et entre dans cela le fait de lui ordonner les ablutions. Et il ne suffit pas de lui ordonner, mais il est également attendu de toi que tu lui enseignes comment faire les ablutions et comment prier. C'est-à-dire que tu lui enseignes les règles des ablutions, les règles de la prière, leurs conditions, leurs piliers, leurs obligations, leurs annulatifs et ainsi de suite. Tout ceci fait partie des choses essentielles qu'il incombe aux parents d'enseigner à leurs enfants, et ce dès l'âge de 7 ans. Le musulman ne doit donc pas être négligent vis-à-vis de cette responsabilité immense et de ce dépôt qui sont ses enfants, qui sont entre ses mains. Mais il se doit d'être loyal vis-à-vis de ce dépôt en enseignant à ses enfants ou aux enfants qui sont sous sa responsabilité les règles essentielles de la religion et entre dans cela les règles de la prière et des ablutions. Et afin de pouvoir leur enseigner de la meilleure manière, il est attendu de toi que tu les apprennes toi-même. Car si les parents ne connaissent pas ces choses et ne les maîtrisent pas, alors comment pourront-ils les transmettre à leurs enfants, wallahu musta'an. Donc on ne va pas plus développer en ce qui concerne ces trois premières conditions, car on les a déjà vues dans la leçon 6. Vous pouvez donc y revenir pour revoir ce que l'on avait mentionné à ce sujet. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a dit, quatrièmement, l'intention. On a vu également que l'intention, c'est une condition de validité de l'ensemble des œuvres. Et cette intention, elle désigne la ferme volonté de vouloir accomplir une chose. Donc ici, la ferme volonté de vouloir accomplir les ablutions. Et tu fais cela pour te soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour suivre l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette intention, il est important de savoir qu'elle se trouve dans le cœur. Tu n'as rien à prononcer avec ta langue, ni même de choses à dire dans ta tête. Mais le simple fait d'avoir la volonté de faire l'acte, ceci est ton intention. Lorsque vient le moment de la prière, que tu te lèves et que tu te diriges vers la salle de bain, que tu ouvres le robinet, que tu remplis un récipient et que tu commences à laver tes mains puis ton visage, c'est que tu as l'intention de faire les ablutions. Et il n'y a que la personne qui a perdu la raison qui pourrait faire cela sans en avoir l'intention. Donc tu dois prendre garde à ne pas ouvrir la porte au diable qui te laisserait penser au moment de tes ablutions que tu n'as pas eu l'intention. Car il y a des personnes, ils vont faire leurs ablutions, ils commencent à se laver, la bouche, le nez, le visage, les mains jusqu'au coude. Puis ensuite le diable lui vient et il commence à se dire « Mais je n'ai pas eu l'intention. » Comment tu n'as pas eu l'intention? Comment as-tu fait tous ces actes? Pourquoi es-tu venu à cet endroit? As-tu ouvert l'eau? As-tu rempli un récipient? Et t'es-tu lavé de cette manière? Si ce n'est en ayant eu l'intention de faire les ablutions. Et c'est pour cela qu'on le rapporte d'un savant parmi les savants des Hanabila, qu'un homme est venu à lui et lui a dit « Je me suis baigné dans la rivière avec l'intention donc de faire le rousse, le grand lavage. Puis lorsque je suis revenu, je doute de m'être réellement lavé. » Alors ce savant lui a répondu « Si telle est la situation, alors ne prie pas. » Il lui dit « Comment m'ordonnes-tu de ne pas prier ?» Il lui répondit « Il n'y a qu'une personne qui a perdu la raison, qui peut se plonger dans la rivière, puis revenir en doutant du fait de s'être purifié. » Donc si telle est la situation, tu as perdu la raison, et la plume est levée pour celui qui a perdu la raison et ne lui est pas demandé d'accomplir la prière. Donc il a voulu par ce raisonnement lui montrer qu'en réalité, il n'est pas possible de faire un acte sans intention. Et certains savants ont même dit que si on t'avait imposé d'accomplir une œuvre sans intention, tu n'en serais pas capable. Il est impossible maintenant de te lever ou de marcher sans en avoir l'intention. Si tu le fais, c'est que tu en as eu l'intention. Donc il en est de même concernant les adorations, que ce soit pour les ablutions ou la prière. Donc le musulman doit être attentif à cela et ne pas se laisser avoir par les suggestions du diable qui tentent de lui rendre compliquées ses adorations afin de l'en détourner. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Cinquièmement, la continuité de l'intention, de sorte à ne pas avoir l'intention d'arrêter les ablutions avant de les avoir terminées. » Cela signifie que lorsque tu fais tes ablutions, tu ne dois pas avoir l'intention de les arrêter avant d'avoir terminé de te purifier. Et cela ne signifie pas que tu dois avoir ton intention en tête tout le long où tu fais tes ablutions, car ceci n'est pas une condition, mais c'est seulement recommandé. Il est recommandé à la personne, lorsqu'elle fait ses ablutions, d'être consciente qu'elle fait cela pour se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de se purifier de telle manière, que se purifier de cette manière permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'on fait cela en prenant pour modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci est recommandé, mais ce n'est pas une condition de validité. Si la personne est consciente de cela au moment de ses ablutions, alors sa récompense sera plus grande, incha'Allah ta'ala. Mais si ce n'est pas le cas, ses ablutions seront tout de même valides. Mais ce qui est visé par cette condition, c'est que tu n'interromps pas tes ablutions pendant que tu les fais. On va donner un exemple pour clarifier cela. À supposer que tu sois en train de faire tes ablutions, tu as rincé ta bouche, rincé ton nez, lavé ton visage, tu commences à laver tes mains jusqu'au coude, et tu entends ton téléphone sonner. Tu attends un appel d'un proche, par exemple. Donc lorsque ton téléphone sonne, tu te dis « je vais répondre à cet appel et je referai les ablutions plus tard ». Donc tu cesses les ablutions, tu as l'intention de les arrêter. Tu te diriges dans la pièce où se trouve ton téléphone et le temps que tu arrives, il cesse de sonner. À ce moment-là, est-ce qu'il t'est permis de retourner et de continuer les ablutions à partir du moment où tu t'es arrêté? La réponse est non. Pourquoi? Car tu as eu l'intention de les arrêter et de les recommencer plus tard. Contrairement au cas où, par exemple, tu entends sonner à la porte et tu attends quelqu'un, tu attends un proche, tu es en train de faire tes ablutions, alors tu te dis « je vais vite lui ouvrir la porte et continuer mes ablutions ». Tu te diriges rapidement vers la porte, ouvre la porte et retourne faire tes ablutions. Dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, incha'Allah ta'ala. Mais ce qui est exigé, c'est que tu n'aies pas l'intention de les arrêter. À partir du moment où tu as eu la ferme volonté et que tu as été déterminé à cesser les ablutions, alors tu devras les reprendre dès le début, incha'Allah ta'ala. Sixièmement, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit l'arrêt de tout ce qui les annule. Et on verra dans la leçon 14, incha'Allah ta'ala, qu'est-ce qui annule les ablutions. Quoi qu'il en soit, avant de commencer à faire tes ablutions, il est impératif que tout ce qui les annule, tu les cesses. Tu ne vas donc pas commencer à faire tes ablutions alors que tu es encore en train de faire tes besoins, par exemple. Mais une fois que tu as terminé, tu pourras commencer à faire les ablutions. Et c'est cela qui est visé par cette condition. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, septièmement, se laver au préalable les parties intimes. Et ce par al-istinja ou al-istijmar. Il est donc obligatoire pour la personne qui fait ses besoins de faire al-istinja, se nettoyer avec de l'eau, ou alors al-istijmar, se nettoyer avec des pierres, du papier ou autre chose semblable. et ce avant de commencer à faire les ablutions. Toutefois, si tu vas faire tes ablutions mais que tu n'as pas fait tes besoins, mais que tu as perdu les ablutions par exemple car tu as dormi ou en raison d'un vent, alors dans ce cas-là, ce n'est pas une condition de se laver les parties intimes au préalable. Mais cette condition, elle n'est demandée que lorsque tu fais tes besoins avant de faire les ablutions. Et ça, c'est très important à comprendre. Car il y a des personnes, en lisant ça, qui pourraient comprendre qu'il est obligatoire de se laver les parties intimes systématiquement avant les ablutions. Alors même s'il ne va pas faire ses besoins, avant d'aller faire ses ablutions, il va aller aux toilettes et se laver les parties intimes. Et ceci n'est pas légiféré, ne fait pas partie de notre religion. Mais ce qui est demandé, ce qui est une condition des ablutions, c'est le fait de se laver les parties intimes après avoir fait ses besoins. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit « Les savants sont unanimes quant au fait qu'il n'est pas obligatoire de laver ses parties intimes suite à un vent ou au sommeil. » Les savants sont unanimes à ce sujet. Et le Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit dans son livre « Al-Mulakhas al-Fiqhi » selon le sens de sa parole, il y a une chose sur laquelle il est obligatoire d'attirer l'attention. C'est que certaines personnes parmi les gens de la masse pensent que l'istinja, le fait de laver ses parties intimes, fait partie des ablutions. Donc lorsqu'il veut faire ses ablutions, il commence par nettoyer ses parties intimes, à faire l'istinja. Même s'il s'est lavé les parties intimes avant, après avoir fait ses besoins. Et ceci est une erreur. Car l'istinja, le fait de laver ses parties intimes avec de l'eau, cela ne fait pas partie des ablutions. Mais cela a lieu après avoir fait ses besoins. Et il n'y a pas besoin de se relaver les parties intimes sans aucune raison, c'est-à-dire sans avoir fait ses besoins. Ceci n'est pas nécessaire. Donc, tel est le sens de la parole de Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dans son livre, Al-Mulakhas al-Fiqhi. Et le Sheikh ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit dans une de ses fatawas que les preuves religieuses démontrent que l'istinja, le fait de laver ses parties intimes, est spécifique au fait d'avoir fait ses besoins. Quant au fait d'avoir un vent, ou alors à dormir, ou autre chose parmi les choses qui rompent les ablutions, alors ceci ne nécessite pas l'istinja, ceci ne nécessite pas de laver ses parties intimes. Mais il suffit de faire les ablutions de la manière légiférée. Puis il a mentionné une parole de l'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, mentionnant qu'il n'y a pas de divergence à ce sujet. Il a dit, rahimahullah, celui qui a dormi ou qui a eu un vent n'a pas à se laver les parties intimes et nous ne connaissons pas de divergence à ce sujet. Donc ceci est un point important à souligner afin de lever toute confusion à ce sujet. Le fait que le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné que se laver au préalable les parties intimes fait partie des conditions des ablutions, cela signifie dans le cas où la personne fait ses besoins. Mais si la personne ne fait pas ses besoins avant les ablutions, ou alors qu'elle a fait ses besoins bien avant et qu'elle s'est déjà lavé les parties intimes, alors elle n'a pas à renouveler ce lavage avant les ablutions. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit huitièmement, que l'eau utilisée soit pure et licite. Donc les ablutions, elles ont lieu avec de l'eau. Et cette eau, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, elle doit être pure et licite. C'est-à-dire que si l'eau est impure, qu'une de ses propriétés a changé, car elle s'est mélangée à une impureté. Lorsqu'on dit une de ses propriétés, c'est-à-dire sa couleur, son odeur ou son goût. Une de ces trois propriétés a été modifiée par une impureté. Dans ce cas-là, l'eau devient impure. Et il n'est plus permis de faire des ablutions avec. Et si la personne fait ses ablutions avec cette eau, ses ablutions ne seront pas valides. Toutefois, si l'impureté qui s'est mélangée à l'eau n'a modifié aucune de ses trois propriétés, n'a modifié ni son goût, ni son odeur, ni sa couleur, alors dans ce cas-là, l'eau reste pure, inshallah ta'ala, et il est permis de l'utiliser pour les ablutions. De la même manière, si l'eau a été modifiée par une chose pure, par exemple, du savon, une personne s'est lavée dans sa baignoire, il y a de l'eau, et cette eau s'est mélangée avec du savon, alors il est permis de faire ses ablutions avec cette eau. Car l'eau, dont une des propriétés change suite à son mélange avec une chose pure, comme du savon, de la terre, des feuilles ou autre, celle-ci reste pure et purifiante, et il est permis de faire ses ablutions avec. Toutefois, à supposer qu'elle soit mélangée avec une chose, lui faisant perdre son appellation, c'est-à-dire que l'on ne l'appellera plus de l'eau, comme le fait de mélanger de l'eau avec un sachet de thé. Une fois le sachet de thé joint à l'eau, on ne dira plus que c'est de l'eau, mais on dira que c'est du thé. Donc, cette eau-là ne pourra plus être utilisée pour les ablutions. De la même manière si elle est mélangée avec du café, du sirop ou autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle perd son nom, qu'on ne dit plus que c'est de l'eau, elle ne peut plus être utilisée pour les ablutions. Mettons que c'est de l'eau, même si elle est mélangée avec un peu de savon, un peu de terre ou autre chose semblable, et qu'elle n'a pas été modifiée par une impureté qui s'est jointe à elle, alors dans ce cas-là, on peut l'utiliser pour les ablutions, il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. L'eau qu'on ne peut pas utiliser, c'est celle qui est impure. Et c'est celle, comme on a dit, dont une des trois propriétés a été modifiée par une impureté. Ou bien son goût, ou bien son odeur, ou bien sa couleur. Et le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit que l'eau doit aussi être licite. Donc en se basant sur cette parole, on comprend que si une personne utilise de l'eau illicite, comme de l'eau volée par exemple, il utilise l'eau d'une bouteille qui a été volée, ou alors l'eau d'un robinet qu'il n'a pas le droit d'utiliser, alors selon la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, les ablutions ne seront pas valides. Car il a mentionné qu'il fait partie des conditions que l'eau utilisée soit pure et licite. Toutefois, les gens de science ont divergé concernant cette condition. Et l'avis prépondérant est celui de la majorité des savants, qui ont dit que les ablutions faites avec de l'eau volée ou de l'eau illicite, alors elles sont valides, mais leur auteur a un péché. Pourquoi? Car il a utilisé de l'eau illicite. Donc ce n'est pas une condition d'utiliser de l'eau licite, mais c'est une obligation religieuse. Il n'est pas permis aux musulmans d'utiliser de l'eau interdite, que ce soit pour ses ablutions, pour boire ou pour toute autre raison. Et ceci est une chose qui n'est pas spécifiquement liée aux ablutions ou à la prière. Le musulman, il n'a pas le droit de voler, ni d'utiliser des choses qui sont volées. Toutefois, à supposer qu'une personne ait fait ses ablutions de cette manière, alors ses ablutions sont valides, inshallah ta'ala. Et ce, car il n'y a aucun texte authentique et explicite prouvant que ceci est une condition de validité. Neuvièmement, il dit, rahimahullah, retirer ce qui empêche l'eau d'atteindre le corps. Il est donc obligatoire pour celui qui veut faire ses ablutions d'enlever des membres de ses ablutions tout ce qui pourrait empêcher l'eau d'atteindre le corps. Car l'eau doit impérativement passer sur l'ensemble des membres des ablutions. Et parmi ces choses qui empêchent l'eau d'atteindre le corps, il y a par exemple la peinture ou autre chose qui peuvent recouvrir les membres de ceux qui travaillent sur les chantiers parmi les différents produits et les différentes matières qu'ils utilisent. Donc avant les ablutions, il convient de se laver et de retirer tout ce qui empêche l'eau d'atteindre le corps, toute matière épaisse. Quant aux choses qui changent simplement la couleur de la peau, comme le henna, le henné, ou alors des traces de feutre, ou autre chose semblable, alors il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Et certains interrogent concernant certaines crèmes qui sont utilisées sur le corps. À ce sujet, les gens de science ont dit que l'on regarde si cette crème empêche l'eau d'atteindre la peau. Si celle-ci est épaisse et forme une matière épaisse au-dessus de la peau, alors dans ce cas-là, il faudra la retirer pour faire les ablutions. Mais en général, les crèmes qui sont utilisées sur la peau, elles sont absorbées par le corps. Donc les gens de science ont dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala, il n'est pas nécessaire de les retirer avant les ablutions. Toutefois, la personne prendra soin de bien passer sa main sur son membre, afin d'être sûr que l'eau atteint l'ensemble du membre qui doit être lavé. Parmi les points liés à cette condition également, il y a l'utilisation de certains maquillages. En effet, il peut y avoir certains maquillages qui empêchent l'eau d'atteindre la peau. Dans ce cas-là, il incombe à la femme de retirer ce maquillage avant ses ablutions. Et j'attire notamment votre attention concernant l'utilisation du vernis à ongles. Les gens de science ont mentionné que la femme qui porte du vernis à ongles et fait ses ablutions sans le retirer, alors ses ablutions ne sont pas valides. Car ceci est une épaisseur qui recouvre les ongles et qui empêche l'eau d'atteindre les ongles. C'est pour cela qu'il est obligatoire de le retirer avant les ablutions, tout en sachant que les savants ont fortement déconseillé l'utilisation de ces vernis. Le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, dit au sujet des vernis à ongles qu'il n'est pas permis pour la femme de l'utiliser si elle prie, et ce, car ils empêchent l'eau de passer lors de la purification. Ensuite, il dit, mais si elle ne prie pas, comme c'est le cas de celle qui a ses menstrues, alors il n'y a pas de gêne à ce qu'elle l'utilise, sauf, méditez bien sur la parole du Shir, rahimahullah, sauf si ceci fait partie des particularités des femmes des mécréants. Dans ce cas-là, il n'est pas permis de l'utiliser pour ce que cela comprend comme assimilation aux mécréants. Et le Shir ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit, dans une de ses fatawas, le hanna, le henné, est meilleur que les vernis, et il est préférable et meilleur de délaisser ces vernis. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, et si la femme le met, alors il est obligatoire pour elle de ne le mettre qu'après s'être purifié, tout en sachant que les délaissés est meilleur et ce de manière absolue. Et le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a mentionné que ceci est une mauvaise habitude qui provient des femmes perverses d'Occident et qui s'est introduite chez les femmes musulmanes. Et il considérait cela rahimahullah ta'ala comme une forme de ressemblance aux mécréantes qui n'est pas permis, et ce, en raison des nombreux hadiths mentionnés à ce sujet, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Quiconque ressemble à un peuple fait partie d'eux ». Il a mentionné cela dans son livre sur les bienséances liées au mariage, rahimahullah ta'ala. Donc vous voyez que de manière générale, il est préférable pour la femme musulmane de délaisser cela pour ce que cela comprend comme ressemblance aux femmes des mécréants. Et si la femme souhaite s'embellir, alors elle utilise ce qu'utilisent les femmes musulmanes, et notamment le henna, qui est meilleur en termes d'embellissement et qui en plus ne l'empêchera pas de faire ses ablutions, incha'Allah ta'ala. Enfin, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit, dixièmement, l'entrée du temps de prière pour celui dont la raison annulative des ablutions est constante. Donc ceci concerne celui ou celle qui souffre d'une chose qui est constante parmi les raisons annulant les ablutions, comme par exemple la femme qui est atteinte de métrorragie, ou alors ceux qui sont atteints d'incontinence urinaire, ou autre chose semblable parmi les raisons annulatives des ablutions qui peuvent être constantes. Dans cette situation, qu'est-ce qu'il incombe à la personne? Est-ce qu'il devra, à chaque fois que quelque chose sort de lui, retourner faire ses ablutions, ou comment doit-il agir? La réponse est que dans cette situation, la personne devra attendre l'entrée du temps de prière, et ensuite accomplir ses ablutions et ne plus tenir compte de cette chose après cela. Puis elle renouvellera ses ablutions à chaque entrée du temps de prière, à l'entrée du temps du Dhuhr, du Asr, et ainsi de suite. Et la preuve à ce sujet est ce qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Fatima bint Abi Hubaysh lorsqu'elle l'a interrogé au sujet des métroragies. Il lui a alors ordonné sallallahu alayhi wa sallam de faire les ablutions pour chaque prière. Donc celui ou celle qui souffre d'une de ces choses, il lui incombe d'attendre l'entrée du temps de prière. On attend l'entrée du temps du Fajr, l'entrée du temps de Dhuhr, de Asr, de Maghrib, de Isha et ainsi de suite. Puis il accomplit les ablutions. Une fois les ablutions accomplies à ce moment-là, il ne tiendra plus compte de cette chose. Et il pourra prier jusqu'au temps de prière suivant et accomplir ce qu'il veut comme prière obligatoire, comme prière surrogatoire et ainsi de suite. Même si cela est constant. Il ne refera les ablutions qu'au temps de la prochaine prière ou alors s'il les perd pour une autre raison. Pour une autre raison que cette chose qui est constante. Et telle est la manière d'agir dans cette situation. On a donc terminé avec les conditions des ablutions, et on verra dans le prochain cours, incha'Allah ta'ala, les piliers des ablutions, ainsi que certaines questions concernant leur description. On va donc s'arrêter là, incha'Allah ta'ala. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. وبارك الله فيكم